de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au milieu des années 50, les Français disposaient d'une quinzaine de jours de vacances. Pour la plupart d'entre eux, ces congés se passaient, sans doute, non loin de leur résidence ou à la campagne, en famille. D'autres quittaient l'Hexagone et l'équipe de la Tribune de Paris leur venait en aide pour bien préparer cette entrée dans un univers pas nécessairement lointain, mais peut-être inconnu. Tribune de Paris, première diffusion sur la chaîne parisienne le 28 juillet 1954.
Tribune de Paris, les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Une émission d'Émile Dana et Raymond Thévenin. Conseils aux Français se rendant en vacances. Sous ce titre, la Tribune de Paris diffuse, 4 mercredis de suite, une courte série d'émissions. Le premier de ces entretiens portait sur le tourisme intérieur en France. Les 3 autres sont consacrés à 3 pays voisins qui sont, par ordre alphabétique, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. On a pu entendre mercredi dernier un échange de vues sur l'Espagne. Mercredi prochain, l'Italie. Ce soir, conseils aux Français se rendant en Grande-Bretagne. Autour du micro sont réunis André Mauroy de l'Académie française, René Laloux, Jacques de Montalet, le chroniqueur de combat, et le romancier et critique Jean Dutour. Raymond Thévenin va mener le débat.
Mon cher maître, si nous devions aujourd'hui rééditer vos conseils à un jeune Français partant pour l'Angleterre, est-ce que vous auriez des modifications à apporter à ce livre? Quels sont ces conseils? Quels sont les conseils que vous préconiseriez?
Je crois d'abord que j'apporterai très peu de modifications, parce que on me dit toujours « Oh, vous allez voir, l'Angleterre a beaucoup changé », et quand j'y vais, au fond, je trouve qu'elle n'a pas changé dans ce qui est essentiel. Par conséquent, les conseils que je donnais dans ce petit livre, que d'ailleurs on ne peut plus trouver, restent à peu près vrais. Mais je crois qu'il faudrait que nous examinions la question en prenant une série de chapitres différents. Que faut-il voir? Que ne faut-il pas faire? Où faut-il aller? Et comment faut-il se conduire avec les gens que l'on rencontre?
Parfaitement, Germain. Eh bien, quelles sont les choses, selon vous, qu'il faut absolument voir en Angleterre?
Eh bien, il me semble qu'il faut avant tout passer la moitié du séjour à Londres. Je suppose un Français qui va en Angleterre pour 15 jours, moi je passerai 8 jours à Londres. Et puis, j'irai à Oxford et à Cambridge. C'est peut-être un goût personnel, mais enfin moi j'ai une affection particulière pour ces deux villes. Il faudrait voir une ville du nord, une ville comme Durham, puis il faudrait aller un peu dans les comtés campagnards du sud, le Surrey et le Sussex. Parfait. Et voilà, à peu près les 15 jours passés.
Oui, Jean Dutour.
Eh bien, moi je voudrais tout de même ajouter 2 villes à celles que André Mauroy vient d'énumérer. Je voudrais ajouter Édimbourg, qui me semble tout de même très important lorsqu'on fait un voyage en Angleterre. Vous me direz qu'Édimbourg est en Écosse, en Écosse et n'est pas en Angleterre, mais il n'y a que les Anglais pour faire ces distinctions-là. Et puis alors, je crois qu'on pourrait aller aussi, parce que c'est une curiosité extrêmement intéressante, voir la ville de Bath.
Vous avez tout à fait raison. Bath, d'abord, c'est une ville ravissante. Ah, ravissante. Cette ville du 18e siècle, oui. Et puis qui est construite comme la place Vendôme, avec des maisons toutes semblables, c'est adorable.
René Laloux.
Ah, moi, je plaiderais aussi pour Chester, pour le Lake Country, c'est le pays des lacs anglais, et naturellement ou le Warwickshire avec Stratford-on-Avon et tous les souvenirs shakespeariens.
Monsieur de Montalet, vous-même, est-ce que vous avez des préférences pour les villes?
Ce sont les mêmes. Le cœur de l'Angleterre, au fond, part de Londres, va vers Oxford, remonte vers Shakespeare, si je puis dire, à travers ces merveilleuses collines du Cotswold, qui sont si typiquement anglaises, sans que ça soit tellement, à mon avis, différent de la France.
Et puisque nous sommes à Londres au début de notre voyage, alors qu'est-ce qu'il faut voir à Londres?
Eh bien, à Londres, il faut d'abord se promener dans les rues pour humer l'atmosphère de Londres et pour regarder cette lumière qui ne ressemble pas du tout à la nôtre, cette brume au milieu de laquelle les rouges et les noirs éclatent d'une façon qui est très belle.
Vous savez qu'il m'est arrivé plusieurs fois, lorsque j'étais à Londres, de me mettre sur le pont de Waterloo, par exemple, et de regarder la Tamise, et d'avoir l'impression, avec la coupole de Saint-Paul dans le lointain, d'être dans une espèce d'énorme Venise.
Oui, c'est oui. Très juste.
Et c'est particulièrement remarquable le matin au printemps. Vous savez que Stendhal a un mot ravissant sur l'Angleterre. Il dit l'Angleterre où les paysages sont si beaux le matin. Eh bien, lorsque on se met sur ce pont de Waterloo un matin de printemps, que le ciel est clair, car ça arrive quelquefois malgré tout à Londres, cette impression vénitienne est encore renforcée.
Alors, il y a quoi de l'Angleterre où il faut absolument aller à ce point de vue-là, au point de vue de l'eau et de l'alliance de la lumière et de l'eau, c'est dans l'Est, alors, le pays de Constable, malgré tout. Ça, c'est extrêmement, extrêmement anglais et particulier, enfin, ce pays où la mer est toujours près de la campagne.
Est-ce qui confirme l'idée de Jean Dutour que Londres ressemble quelquefois à Venise, ce sont les Turner, car Turner est arrivé à peindre des tableaux qui ont l'air d'être peints à Venise, justement sur les bords de la Tamise.
Eh bien,
quelle saison conseilleriez-vous? Si nous voulons être utiles à nos auditeurs, quelle saison? Moi, je conseillerais le printemps pour Londres.
Je crois qu'on ne peut pas conseiller de saison, parce que l'Angleterre est aussi intéressante en hiver qu'en été, et je dirais même elle l'est peut-être un peu plus en hiver, elle a encore plus son cachet anglais.
Alors donc, c'est l'hiver.
C'est l'hiver.
Je suis pour le printemps.
Vous êtes pour le printemps, André Mauroy.
Eh bien, moi j'y ai souvent passé l'été, avec plaisir.
Bon. Oui, moi j'ai le souvenir d'été étouffant en Angleterre.
Et à Londres en particulier. La campagne anglaise, l'été.
Bon. Dites-moi, messieurs, maintenant que nous avons pris connaissance du climat, que nous avons pris un peu contact avec le climat, avec les paysages anglais, il reste la visite londonienne. Qu'est-ce qu'il faut voir à Londres?
Bien, il faut d'abord voir les choses classiques, Westminster, les maisons du Parlement, la Tour de Londres, et puis tout ce paysage administratif qui est unique, qui va depuis la maison du Premier ministre jusqu'à Buckingham Palace. Et puis alors, il faut se promener aussi dans les quartiers beaucoup moins connus, dans l'East End.
Oui, René Lalo.
Une chose à ne pas manquer, la cité et le pont de Londres, si on veut vraiment avoir une sensation d'anonymat, sans dire qu'on n'existe pas au milieu des milliers de gens qui, à 6 heures du soir, entre 5 et 6 heures du soir, rentrent chez eux.
Mais vous avez une sensation différente de celle que vous avez à Paris à la
Multipliée, n'est-ce pas?
Ah oui? Pourquoi?
Une impression de laideur tout de même dans l'East End.
Mais pour moi, à Paris. Pourquoi avez-vous cette sensation d'isolement à Londres? Plus qu'à Paris. Est-ce à cause du tempérament anglais ou est-ce à cause de la manière de se comporter du peuple anglais, des travailleurs anglais?
Bien, n'est-ce pas le fait que à Londres, vous passez dans une foule et la foule ne s'inquiète pas de vous une seconde. Vous ne comptez pas, vous êtes vraiment un atome. Tandis qu'à Paris, on a l'impression qu'il y a toujours une personnalité, n'est-ce pas?
Oui, et puis ça, c'est d'ailleurs un des préceptes de la politesse anglaise, qui est de faire comme si vous n'existiez pas, comme si on ne vous voyait pas. Maintenant, vous allez dire que peut-être j'ai une propension à comparer les villes aux autres, mais lorsque je suis allé à Londres pour la première fois, quand j'y suis débarqué, alors que c'était pour moi une ville complètement inconnue, j'ai pensé non pas à Venise, comme un peu plus tard, mais à Lyon. Je me suis dit, Londres, c'est quelque chose comme Lyon à la 13e puissance. Il n'y a pas, ça n'est pas du tout comparable à une ville comme Paris, parce qu'il n'y a pas ces points nerveux comme il y a dans Paris, ces points de beauté. Il n'y a rien de véritablement beau à Londres. Tout est pratique, tout est commode, ce qui exclut tout de même une certaine recherche esthétique. Mais il y a une uniformité, une atmosphère, une immensité aussi, qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose en particulier à voir à Londres, mais qu'il faut avoir vu Londres elle-même, qu'il faut s'être promené interminablement dans ces rues, qui d'ailleurs sont infiniment plus fatigantes que les rues de Paris. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Au bout d'un quart d'heure de promenade à Londres, les gens vous rentrent dans le corps.
Oui, et puis j'ajouterais alors
que... André Mauroy.
Il faut se promener la nuit.
Ah oui.
Parce que c'est la promenade de Dickens, et en particulier aux approches de Noël, et ceci donnerait raison à ceux qui conseillent l'hiver, parce que c'est très beau à l'approche de Noël. Les gens se promènent avec des petits paquets qui ont l'air heureux.
Je vous poserai également une question. Est-ce que, étant à Londres, il faut aller à une séance du Parlement?
Oh, sans aucun doute. C'est d'un intérêt passionnant. Et puis, en même temps, c'est une grande leçon d'ordre, de courtoisie. Aussi, ça montre combien les Anglais ont su, au fond, se servir des coutumes pour se donner un ordre. N'est-ce pas? Le fait qu'on est obligé de dire, le très honorable gentleman, autrefois de mettre un chapeau de forme sur sa tête pour parler, tout ça impose une discipline.
Indiscutablement, et d'autant plus remarquable que ça n'exclut nullement une certaine bonhomie, une certaine gentillesse dans les rapports, qu'il n'y a pas cette virulence et cette grossièreté que l'on voit dans d'autres parlements.
Et ne croyez-vous pas que cela tient beaucoup à la forme même des lieux, qui, au lieu d'être en demi-cercle, très favorable à l'orateur et à tous ces grands éclats et ces mouvements oratoires, on est face à face,
oui,
et l'on
oui.
cause plus oui. qu'on...
Et l'on parle de sa place, ce qui est très
Justement.
Important.
C'est...
Ah, il n'y a pas de tribune. Ah,
non, ça enlève tous les mouvements d'éloquence.
À tous.
Un grand avocat français serait ridicule à Londres. Oui. Avec ses envols de manches, etc.
Je me rappelle parfaitement à une séance du Parlement à laquelle j'ai assisté, avoir vu les front benches, c'est comme ça qu'on dit, par rapport aux back benches, c'est-à-dire à ceux qui sont derrière, eh bien, les front benches, les députés qui ont leur siège très près de la... C'est pas une tribune, mais enfin du bureau du speaker ou du président... ont une attitude extrêmement confortable et relâchée. Certains même, et je me rappelle particulièrement avoir vu M. Hayden mettre ses pieds comme ça sur la tribune même, sur le bureau même du président. C'était assez rigolo et assez sympathique en même temps.
Il y a une phrase admirable de Lord Hartington, qui avait d'abord siégé aux communes avant de siéger aux lords, et il disait « J'ai fait un rêve affreux ». J'ai rêvé que je m'étais endormi pendant mon premier discours aux communes. Je me suis réveillé et j'ai découvert que c'était vrai.
C'est un mot charmant.
Remarquez qu'il y a une tradition, d'ailleurs, André Morois en parle dans son Disraeli, ne pas faire un discours, un premier discours trop brillant.
Ne jamais faire un discours trop brillant.
Oh, mais ça, messieurs, c'est valable pour tous les parlements du monde, y compris le Parlement français. Il est jamais bon pour un jeune député de faire un discours trop brillant. Enfin, ceci dit...
Et ceci nous amène justement à une des questions que vous vouliez nous poser. Comment faut-il se conduire en Angleterre ? Un des premiers préceptes, c'est qu'il ne faut pas être trop brillant. Il ne faut pas chercher à étonner les gens, ou comme on dit ici, à leur en mettre plein la vue. Parce que ça ne réussira pas.
Parmi les autres choses qu'il faut voir à Londres, nous avons dit le Parlement, c'est moi qui vous ai posé cette question. Qu'est-ce qu'il faut voir encore ? Les musées, tout de même.
Bien sûr.
Lesquels ? On est là où ?
National Gallery.
Oui.
Naturellement. La Wallace Collection.
Tate Gallery.
Oui, surtout la Tate Gallery, où il y a le nombre le plus impressionnant de Turner qui y est au monde, c'est-à-dire, je crois, 200 ou 300, et qui sont tous d'une splendeur, d'une beauté étourdissante.
Oui, et qui sont très intéressants parce qu'on voit comment Monet s'en est servi.
Oui. Et puis alors on s'aperçoit par là que Turner est peut-être le premier impressionniste, tout au moins c'était un homme qui était en peinture 50 ans en avance sur son époque.
Si nous devions caractériser l'attitude anglaise, nous serions tous naturellement amenés à parler de l'humour anglais. Qu'est-ce que c'est l'humour anglais ? Moi, je vous avoue que je n'en ai jamais trouvé ni une définition. On en trouve beaucoup d'exemples, mais une définition. André Morois.
Eh bien, l'humour anglais consiste à se moquer d'une chose ou d'un être en l'imitant. Meredith dit, l'humoriste marche derrière la personne dont il veut se moquer en imitant tous ses gestes. À la différence de l'esprit qui attaque en face en perçant que la personne comme un ballon, n'est-ce pas ? Au contraire, l'humoriste reste glacé, il n'a pas l'air de trouver que c'est comique, il imite, mais l'imitation est un peu exagérée et par là montre que la chose est ridicule.
Jean Dutour ?
Ah oui, cette définition de Meredith est excellente. Il y a, on peut en donner, il y a des centaines de formes d'humour. À mon avis, une des plus accomplies et une des plus célèbres aussi est la fameuse phrase que l'explorateur Stanley a dit au docteur Livingstone, à la recherche duquel il était depuis un an au cœur de l'Afrique. Finalement, il l'a trouvé. Le docteur Livingstone était resté pendant un an complètement coupé de la civilisation. C'était devenu une sorte d'homme des bois. Et Stanley l'a découvert comme ça, dans un coin de forêt, je ne sais pas bien où. Et au lieu de se jeter dans ses bras, de faire mille et une démonstrations qu'un latin n'aurait pas manqué de faire, il s'est approché de lui, très raide, a fait une petite inclination de tête et a dit « Dr. Livingstone, I presume », ce qui veut dire « le docteur Livingstone, si je ne me trompe
». Vraiment excellent.
C'est l'humour, n'est-ce pas l'humour ?
René Laloux.
Je crois que dans l'humour, il est impossible, on a fait des tas de définitions de l'humour, Taine, Angelier, tout le monde s'est essayé, je crois qu'on ne peut pas définir l'humour comme une chose simple, c'est toujours une chose double. Il y a, si vous voulez, une chose à peu près constante, je crois, l'ironie, et puis un autre élément totalement différent. Par exemple, l'humour de Dickens, c'est ironie plus tendresse. Oui. L'humour de Swift, c'est ironie plus férocité. Et alors, il y a toujours, dans le véritable humour, le coup de bascule. Renverser la notion habituelle. Vous voyez, enfin, un des maîtres de l'humour anglais, Swift, il veut rendre l'homme ridicule. Mais il y a deux façons. Mettre l'homme parmi des nains ou le mettre parmi les géants. Dans les deux cas, il est ridicule. à cause de cet effet de renversement, n'est-ce pas? Et dans l'exemple que citait Jean du Tour, il y a exactement l'effet de renversement. On s'attend à une grande effusion, et le monsieur, au contraire, prend la formule la plus simple.
Et d'ailleurs, une des formes de l'humour les plus répandues en Angleterre, c'est ce qu'ils appellent l'understatement,
oui,
et ce que l'on appelle ici la litote, c'est-à-dire dire beaucoup trop faiblement quelque chose qui mériterait une expression plus outrée.
Certainement.
Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples?
Oh, ben c'est extrêmement simple. Par exemple, je ne sais pas,
un exemple, pendant au moment des premiers bombardements de Londres, un grand magasin avait été presque entièrement détruit par une bombe. Et le lendemain, il a tout de même ouvert ses portes avec une pancarte un peu plus ouverte que d'habitude.
Oui, c'est excellent, évidemment.
C'est un understatement, c'est-à-dire une façon de s'exprimer au-dessous de la vérité.
Il y a eu un mot aussi dont je voudrais vous demander la définition, car on l'emploie souvent lorsqu'il s'agit des Anglais, c'est le mot gentleman. Qu'est-ce qu'un gentleman, André Mauroy?
Eh bien, un gentleman, c'est d'abord quelqu'un qui ne prononce jamais le mot gentleman.
Premièrement.
Et puis ensuite, je crois que c'est un homme qui ne se vante de rien, qui ne met jamais les autres dans l'embarras, qui ne refuse jamais un devoir et qui ne sollicite jamais un honneur, quelque chose comme ça. Un homme bien, dirait-on en français.
Oui, un
Jean du Tour.
Un monsieur.
Un monsieur.
Et un monsieur qui accomplit un certain nombre d'actions d'éclat pour se donner le plaisir de ne pas en parler.
En France, on s'imagine, je crois, volontiers que le gentleman représente une classe sociale. Ça n'est pas vrai.
Oh, pas du tout.
Absolument pas. Il y a des gentlemen partout.
Il peut y avoir des gentlemen dans toutes les classes.
Dans toutes les classes. René Laloux. Oui.
C'est un peu comme l'honnête homme français au XVIIe siècle. C'est un type qui n'est pas génial, qui n'est pas un héros, ni un génie, mais qui fournit un excellent exemple d'humanité moyenne. On pourrait faire 12 sur 20, pas régulièrement.
C'est tout à même un monsieur.
Jacques de Montalais.
Très conformiste. On ne saurait être gentleman, à mon avis, en Angleterre sans être conforme à la société anglaise.
Ça n'est certes pas un révolté, Jean du Tour.
Oui, et puis il y a tout de même aussi cette différence entre le gentleman du XXe siècle anglais et l'honnête homme du XVIIe ou du XVIIIe siècle français, c'est que le gentleman, de préférence, n'a rien lu.
Ça, c'est une méchanceté, mon cher ami. Ça, c'est une méchanceté.
C'est plutôt une valeur morale qu'une valeur intellectuelle.
Voilà. Avant que nous commencions cette conversation, l'un d'entre vous nous racontait une charmante anecdote sur les gentlemen. Il s'agissait d'un pari, je crois. Qui nous a raconté ça? C'est René Laloux. D'un pari entre un Anglais et un Américain.
Ben, vous voulez me brouiller avec les Américains?
Mais non, mais pas du tout, pourquoi?
Moi, je veux bien, mais bien entendu, la responsabilité...
Ne vous appartient pas, nous
sommes. Non, elle appartient à l'Angleterre, c'est une des histoires. Ben, de même que les Anglais aiment beaucoup rire de ces Américains qui disent naïvement « I've done Oxford, j'ai fait Oxford en une journée », n'est-ce pas? Eh bien, de la même façon, ils prétendent qu'un jour, dans un train, il y avait un Anglais et un Américain qui, pour passer le temps, ont fait un pari. L'enjeu était naturellement un whisky qu'on boirait en arrivant. Celui des deux qui raconterait l'histoire la plus stupéfiante, la plus extraordinaire, enfin, voyez, Madame de Sévigné. Et l'Anglais, puisqu'il était chez lui, dit à l'Américain « Commencez », et l'Américain commence. L'autre jour, j'ai rencontré un gentleman américain. « Vous avez gagné », dit l'Anglais.
André Mauroy de l'Académie française, René Laloux, Jacques de Montalais et Jean Dutour ont donné quelques conseils aux Français se rendant en Grande-Bretagne. Vous venez d'entendre la Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion télévision française, réalisée par Émile Dana et Raymond Thévenin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 28 juillet 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».